Et nous lirons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 34 à 45. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes venus vers toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ses plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors, ils répondirent eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Alors il leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Le texte de Matthieu, qui est bien connu, clôt l'enseignement de Jésus et la série de paraboles constituant le corpus de l'enseignement de Jésus juste avant le récit de la Passion. Il porte sur le jugement dernier et la vie après la mort. Rappelons déjà les courants principaux du judaïsme à l'époque de Jésus, et plusieurs tendances existaient. Je vous cite les principales. Les pharisiens, scribes et spécialistes de la loi, mais laïcs, reconnaissaient les écrits des prophètes ainsi que leur propre tradition orale. Ils croyaient à la fois à la souveraineté de Dieu et au libre arbitre de l'homme. Ils croyaient à la hiérarchie des anges et des démons. Ils croyaient à la résurrection, à l'immortalité de l'âme et à un jugement dans le monde à venir. Ils prônaient une pratique scrupuleuse de la loi. Retenons bien ce thème. Les Sadducéens, prêtres de Jérusalem, recourent seulement à la Torah comme autorité absolue. Ils croient au libre arbitre de l'homme, mais ils sont très sceptiques sur le rôle des anges et des démons. Ils ne croient pas à la vie au-delà de la mort ou d'un monde à venir. Mais eux aussi prônent surtout l'obéissance scrupuleuse à la loi. Les Esséniens, prêtres et laïcs, en rupture avec le temple de Jérusalem, reconnaissent la Torah, les prophètes et les écrits, mais recourent aussi à de nombreux textes, notamment apocalyptiques, que l'on continue à découvrir d'ailleurs. Ils croient à la souveraineté de Dieu sur la destinée humaine, ils croient aux anges, aux démons, un jugement dernier à la fin des temps. Eux aussi prônent l'obéissance stricte à la loi. Les zélotes, activistes politiques, prônent le respect intégral à la loi, eux aussi, des traditions et des particularismes juifs. Ils refusent de payer l'impôt à Rome. Ils espèrent un salut concret à l'issue d'une insurrection contre Rome. D'ailleurs, ils étaient un peu violents. Croyances très différentes, donc, entre ces différents groupes, qui se battaient quelquefois très cruellement, on l'a vu. Mais qu'avaient-ils tous en commun? Tous, sans exception, reconnaissent la primauté de la loi et de ses 613 commandements. 248 commandements positifs, fais cela, autant que de membres du corps. Alors, je n'ai pas trouvé les 248 membres du corps que reconnaissaient les juifs de cette époque, mais peu importe. Et 365 négatifs. Ne fais pas cela autant que de jours dans l'année. C'était le fondement universellement admis dans l'ensemble du judaïsme, et qu'il est encore très largement aujourd'hui d'ailleurs. Il s'agit dans ce texte d'un récit sur le jugement dernier, admis de tous, sauf des Sadducéens. Et cette tradition s'est étendue largement dans le monde chrétien. Sur nombre de tympans de nos églises figure ce jugement, avec le Christ érigé en juge impitoyable, les élus à sa droite, les réprouvés à sa gauche. Mon propos ne sera pas de débattre sur le fond de la vie éternelle, ni sur le jugement dernier, des élus et des réprouvés, du paradis et de l'enfer. Ça nous emmènerait vraiment très loin. Mais simplement du texte de Matthieu dans ce qu'il a d'original, passé trop souvent sous silence. Pour en revenir donc au texte que nous avons lu, Jésus part des croyances de son auditoire, de leur culture, qui pour la circonstance ne met pas en doute la vie éternelle, croyance largement répandue dans son auditoire, et comme il le fait toujours dans ses paraboles, il parle de choses concrètes qui parlent complètement à son auditoire. Cependant, là encore, comme Jésus nous a habitués à le faire, il ajoute un germe d'interprétation et de dépassement à ce récit. C'est la question du jugement. Qui dit jugement dit tribunal. Et la recherche des preuves ou des aveux des incriminés est essentielle dans tout tribunal qui se respecte. Et c'est aussi le cas dans toutes nos sociétés. C'est sur ces preuves ou ces aveux que s'appuie le juge pour délivrer son verdict, en faisant référence à quoi ? Aux lois. Et pour cela, il y a les commandements de la loi, très précises. C'est l'obéissance à cette loi qui permet de savoir qui est coupable et qui se conduit de façon juste. C'est la règle de toute société humaine et celle qui régit dans toutes les nations. C'est sur nos lois que s'appuient les juges de nos tribunaux qui permettent seuls de prononcer un verdict. Quoi de plus naturel et même obligatoire dans toute société ? Il ferait beau voir si dans un de nos tribunaux, un juge se permettait de prononcer un verdict qui ne ferait pas référence à une loi. Ce serait un scandale. C'est le fondement de toute société qui serait remise en cause. C'est impensable. Donc les auditeurs de Jésus avaient évidemment en tête la même chose que nous, la loi, toute la loi, rien que la loi. Or, que nous dit ce texte ? Il commence à féliciter ceux qui seront les élus pour leur bonne conduite. Ils ont fait le bien à Jésus, l'ont nourri, recueilli, visité, vêtu, mais ces derniers restent interdits. Quelle preuve, quand et où ont-ils fait le bien qu'il leur est attribué ? Quelle preuve, quelle circonstance ? Jamais ils n'en ont eu conscience. Et qui pourrait le prouver devant un tribunal ? Ce n'est pas ainsi qu'on peut porter un jugement. Ils attendent normalement une réponse juridiquement valable. Puis il en est de même pour ceux qui sont réprouvés. Que n'ont-ils pas fait à Jésus, là encore ? Où sont les preuves tangibles ? Ils n'ont même aucun souvenir de n'avoir pas respecté la loi. Comment peut-on les condamner sans preuve, sans même un aveu, puisqu'ils ne se souviennent de rien ? Pas de preuve, pas d'aveu, comment peut-on juger ainsi ? Et la réponse de Jésus n'est pas juridique. Il dépasse, là encore, les croyances de son auditoire. Chaque fois que vous avez fait ou pas fait cela à l'un quelconque de ces plus petits dans nos frères, c'est à moi que vous l'avez fait ou pas fait. Pas une preuve, pas d'évocation précise, un état d'esprit et la conduite qui en découle naturellement. Cela devrait évoquer pour ses disciples nombre de circonstances de la vie de Jésus qui précède ce texte, où il a été accusé de violer la loi pour faire le bien. Vous avez sans doute nombre de paraboles où, effectivement, notamment les pharisiens lui reprochent de ne pas respecter la loi, et il la viole. Cette conduite lui a toujours été amèrement reprochée. Guérir un jour de sabbat, manger avec des publicains, des prostituées, quelle horreur ! Cela procède du même esprit. Jésus ne se situe pas sur le même plan. Il ne s'agit pas de comptabiliser les bonnes et les mauvaises actions en se fondant bien entendu sur la loi, éprouvée juridiquement, comme ses auditeurs pouvaient s'y attendre. Il s'agit de se convertir, c'est-à-dire de changer son cœur, le regard qu'on porte sur son prochain, sans en attendre la moindre récompense ni la moindre condamnation. C'est ce passage d'une vision juridique fondée bien entendu sur les références à la loi, à la conversion du cœur que Jésus nous enseigne. La conversion du cœur ne s'appuie pas sur une obéissance formelle à une loi extérieure au cœur de l'homme. Elle peut même s'en affranchir. Jésus l'a fait à de nombreuses reprises. Ce passage de Matthieu, en apparence assez anodin, remet en réalité en cause, contrairement à ce qu'une lecture au premier degré pourrait laisser entendre, la justification par les œuvres. Elle remet en cause nombre de représentations sur les tympans des églises du jugement dernier, mettant à droite ceux qui se seraient bien conduits et à gauche ceux qui se seraient mal conduits. C'est dans la suite de tout l'enseignement du Christ un appel à la conversion du cœur et à la fraternité humaine, bien loin d'une obéissance à la lettre de la loi. La construction de tout un édifice théologique bien postérieur aux évangiles se trouve ainsi remise en cause. La justification par les œuvres, le purgatoire, les pénitences, les indulgences, et j'en passe, qu'ont remise en cause à juste titre nos réformateurs au XVIe siècle, même si, il faut le reconnaître eux aussi, rejetaient certains pécheurs scandaleux des premières églises de la Réforme, notamment à Genève. Il ne faut pas non plus caricaturer trop les choses. Amen.